Bienvenue à The Debate. Imaginez un peu la scène. Nous sommes à Mani, ou peut-être dans une province assez reculée des Visayas, à l'aube du 30 avril 1937. Devant les bureaux de vote, de jeunes femmes montent la garde.
Et sans aucune pancarte en plus.
Exactement, sans pancarte. En fait, elles portent des nourrissons. Tout ça pour que les mères puissent entrer et glisser leur bulletin dans l'urne en toute tranquillité.
C'est vraiment une logistique maternelle ingénieuse, oui.
Et tout ça au service d'une véritable révolution politique.
Absolument. Alors aujourd'hui, on décortique ce moment de bascule, le jour où les femmes philippines ont, disons, massivement conquis leurs droits civiques. Les chiffres officiels de l'époque sont juste, eh bien, vertigineux.
Oui, on parle de 447-725 voix pour... C'est ça. Et à peine 44-307 contre. Une victoire éclatante dans un archipel qui était pourtant figé par un patriarcat très lourd. Donc la question centrale de notre discussion est claire. Est-ce que ce raz-de-marée est fondamentalement le triomphe d'un militantisme féminin, de terrain, très opiniâtre ?
Ou bien, et c'est ma position, est-ce que ça résulte avant tout d'un opportunisme institutionnel lié à la transition politique du pays ?
Voilà. Pour moi, c'est la force de frappe à la fois logistique et rhétorique de ces citoyennes qui a littéralement forcé la main de l'histoire.
Et de mon côté, j'affirme que sans les calculs politiques très précis des dirigeants masculins pour ouvrir cette porte, ben, le statu quo aurait perduré indéfiniment.
Alors, ce triomphe, il ne sort pas de nulle part. C'est vraiment l'explosion d'une cocotte minute après plus de 30 ans d'activisme, amorcé dès 1905.
30 ans, oui.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'intelligence stratégique de ces militantes face aux conservateurs qui, disons-le, hurlaient que le vote détruirait l'équilibre familial.
Mm-hmm.
Une figure comme Josefa Lanez-Escoda n'a pas attaqué frontalement. Elle a en fait retourné l'argumentaire patriarcal en expliquant que voter, ça permettait simplement aux femmes d'aider leur mari à mieux gérer la cité.
C'est très habile, je vous l'accorde.
Très habile. Et cette image des jeunes femmes de la Junior Federation of Women's Clubs qui gardent les enfants, ce n'est pas qu'une petite anecdote historique. C'est le symbole d'une mobilisation populaire inarrêtable.
Oui, mais cette ferveur militante, aussi ingénieuse soit-elle, elle se fracassait systématiquement sur un mur institutionnel. Prenez des figures historiques comme Concepción Félix ou Pura Villanueva Callao.
Des pionnières, oui.
Tout à fait. Leurs efforts étaient réels. Mais rappelez-vous la fameuse pétition de 1920. Elle a été reçue très poliment par la législature pour être, eh bien, immédiatement enterrée en commission.
C'est vrai que les débuts ont été très frustrants.
Et même la loi de 1933, qui devait leur accorder le droit de vote, elle a été balayée lors de la création du Commonwealth et de la Constitution de 1935. Donc, en réalité, le vrai moteur de ce changement, c'est le revirement du président Quezon en 1936.
Vous pensez vraiment que c'est Quezon qui a tout déclenché ?
Oui, parce qu'il cherchait une nouvelle base électorale solide. C'est l'appareil d'État qui a offert l'impulsion et surtout la légitimité nécessaire.
Ah, mais attendez, vous parlez de l'appareil d'État comme d'un facilitateur alors qu'il a érigé un obstacle monumental. Lors de cette constitution de 1935, l'élite masculine leur concède un plébiscite, d'accord, mais avec une condition draconienne.
Les fameuses 300 000 voix.
Exactement. Obtenir 300 000 voix affirmatives. Demander ça dans un archipel de 7000 îles sans réseau de transport centralisé où les femmes n'ont jamais été inscrites sur les listes, eh bien c'est comme demander d'organiser un recensement national en utilisant uniquement des pigeons voyageurs.
La comparaison est amusante, mais...
Mais c'est ça. Le système était conçu pour s'effondrer sous son propre poids géographique. Alors, réussir à inscrire 572 130 électrices en une seule semaine d'avril, c'est une véritable insurrection pacifique face à des règles délibérément truquées.
Alors, je ne suis pas du tout convaincue par cette lecture. La prouesse logistique du quadrillage de l'archipel, elle est indéniable, je vous le concède.
C'est un exploit majeur ?
Oui, mais n'oublions pas qui a dessiné cette arène, l'élite masculine, via le fameux Commonwealth Act numéro 34. Cette loi, elle a littéralement dicté les règles du jeu électoral.
Mais pour les faire perdre ?
Pas forcément. En imposant ce seuil, le pouvoir gardait le contrôle absolu du chronomètre et des conditions du scrutin. Les discours alarmistes des conservateurs auraient continué de prospérer sans une intervention au sommet.
Donc l'intervention de Quezon ?
Précisément. S'il s'effondre soudainement, c'est uniquement parce que Quezon déclare publiquement que traiter les femmes en sujettes serait indigne d'une démocratie en devenir. Il désarme l'opposition institutionnelle de l'intérieur, bien plus efficacement qu'un tracto militant.
Oui, mais Caison n'aurait jamais, au grand jamais, pris ce risque politique si le terrain n'était pas déjà parfaitement miné et préparé par les militantes. Son discours n'aurait eu aucun poids sans la réalité des urnes derrière.
C'est une synergie, certes, mais l'impulsion vient d'en haut.
La preuve que ce n'était pas qu'une manœuvre d'en haut, c'est le résultat direct. 86% de taux de participation chez les femmes inscrites. 86%. Ce chiffre traduit une conscience politique féminine organique. La victoire a été si massive qu'elle a écrasé d'emblée toute tentative de contestation légale.
Les chiffres sont colossaux, c'est vrai. Mais regardons un peu l'après-vote pour bien comprendre la vraie dynamique du pouvoir.
L'après-vote.
Oui. Les structures patriarcales sont restées si puissantes que les grands partis, qui étaient exclusivement dirigés par des réseaux masculins, eh bien, ils ont gardé la mainmise totale sur les financements et les investissures stratégiques.
C'est le jeu politique de l'époque qui reprend ses droits, oui.
Un jeu très fermé et liministe. Le résultat, c'est qu'il a fallu attendre 1941 pour voir une seule femme, Elisa Ochoa, élue à la Chambre des représentants. Une seule élue face à une mère d'homme.
C'est un début difficile, je le reconnais.
C'est surtout là que réside la véritable leçon de cet événement. Le pouvoir des institutions n'est pas toujours de refuser le droit de vote de façon frontale, c'est de contrôler l'infrastructure même de l'accès au pouvoir. Le système n'a cédé que la façade, en fait, il a gardé les murs porteurs.
Eh bien, je pense que nous sommes au moins d'accord sur un point. Ce scrutin de 1937, c'est un séisme fondamental qui a fait des Philippines une pionnière du suffrage universel en Asie.
Tout à fait, c'est un moment charnière incontestable.
En revanche, la discussion reste évidemment ouverte sur son moteur principal. Pour moi, c'est l'aboutissement inéluctable d'un militantisme de terrain qui a tout simplement refusé de plier.
Et pour moi, ce droit a été rendu possible avant tout par une ouverture stratégique du sommet de l'État en pleine période de transition constitutionnelle.
Analyser l'histoire sous l'angle de ces rapports de force nous rappelle que les droits fondamentaux sont, eh bien, rarement de simples cadeaux. La prochaine fois que vous pensez à un acquis social ou politique, demandez-vous, est-ce la force de la rue qui l'a arraché en déjoint des règles impossibles ?
Ou bien le calcul d'un palais qu'il a finalement concédé ?